VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a donné hier soir la liste définitive des candidats au présidentiel. Sur les 16 postulants, deux ont été recalés, Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo, tous deux anciens ministres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré. Le compte-rendu de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
En rendant publique la liste définitive des candidats à la présidentielle au Faso, les conseils constitutionnels lèvent du même coup le suspense qui l'entourait avec les recours en inéligibilité. À chaud, voici ce que des Burkinabés pensent de cette liste définitive.
Les 16, on vient d'enlever 2, donc il reste 14. Mais je me dis quand même que c'est pas suffisant. Parce que en regardant quand on veut aller au fond des choses, quand même les Ramla aussi ont participé d'une manière ou d'une autre. Salvador aussi. Donc si aujourd'hui on enlève et puis on laisse, je pense que bon, comme c'est la justice, on peut rien dire. Notre souhait que tout se déroule bien, que Dieu donne la paix au peuple burkinabé.
Moi j'ai craint pour Rochmar Christian Kabore, du fait que lui, il passe. Sincèrement, je suis très content. Les deux là, Djibril Bassolé et Yak, du fait qu'ils ne sont pas là, je suis vraiment content.
C'est la démocratie qui se dessine. Déjà, c'est un grand pas. Je suis satisfait de la décision par rapport à Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo.
Maître Benevendi Sankara a lui formulé 4 recours. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison sur la moitié. Comment le prend-il?
Le Conseil constitutionnel a certainement fondé sa décision en référence à sa propre jurisprudence. Prudence, puisque déjà nous avons introduit pour les législatives des recours où des candidats avaient été déclarés inéligibles, dont également d'anciens ministres de Blaise Compaoré. Donc le Conseil constitutionnel est resté en phase avec sa propre jurisprudence. Les deux autres, Ram Ouédraogo et M. Yamuro Salvador, sont des présidents de partis politiques qui ont soutenu le référendum qui demandait la modification de l'article 37. Ils ont échappé au filet. Nous le regrettons, mais nous prenons acte de la décision de justice en espérant que les candidats recalés seraient aussi républicains, prendront acte.
Zoumana Ouédraogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait face à une opposition morcelée dans sa course à un deuxième mandat. 33 candidatures avaient été déposées, un record, et au final, le Conseil constitutionnel en a validé 10. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Émilie Yob.
10 candidats, 8 hommes et 2 femmes, s'affronteront le 25 octobre prochain lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel ivoirien. L'une des questions qu'a dû trancher l'instance concernait l'éligibilité d'Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Certains de ses opposants affirmaient qu'il ne satisfaisait pas tous les critères requis, mais le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, en a conclu autrement.
L'examen du dossier de candidature de M. Alassane Ouattara révèle qu'il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il échoue en conséquence de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015.
Juste avant l'annonce, un important dispositif policier avait été déployé autour de l'immeuble abritant le Conseil constitutionnel à Abidjan. Ces prochaines élections sont perçues comme une étape importante pour solidifier la paix dans le pays après des années de guerre civile et de violents affrontements lors des précédentes élections en 2010. Les résultats des urnes avaient été contestés et les partisans du président de l'époque, Laurent Gbagbo, et ceux du candidat de l'opposition, Alassane Ouattara, s'étaient affrontés pendant plusieurs mois, faisant près de 3000 morts. Finalement, Laurent Gbagbo fut arrêté et Alassane Ouattara fut déclaré président. 5 ans plus tard, ce dernier est donné favori dans la course à la présidentielle d'octobre prochain face à une opposition morcelée. Les deux principaux partis, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ou PDCI, ainsi que le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont connu de graves crises internes ces derniers mois. Plusieurs ténors politiques ont claqué la porte de leurs partis respectifs et décidé de se porter candidat à la présidentielle sous l'étiquette d'indépendant ou bien ont lancé leur propre parti. Parmi les candidats, les anciens premiers ministres Pascal Affi N'Guessan et Charles Konambani, l'ancien ministre des Affaires étrangères Amara Essi et l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly. Ce dernier, qui a fondé son propre parti, le Leader, a rejoint la CNC, une coalition de plusieurs membres de l'opposition avec pour but de s'allier contre Alassane Ouattara, comme l'explique la déléguée générale du parti Leader, Monique Bekia.
Nous nous sommes dit que seul On ne pouvait pas véritablement battre le candidat Ouattara. Il fallait qu'on se mette ensemble. On est de divers horizons et il y a toujours des petites incompréhensions. Ça, on ne va pas le nier. Mais l'objectif majeur, c'est la Côte d'Ivoire et tout le monde fait bloc par rapport à cela.
La campagne électorale ne commence pas avant le 9 octobre prochain, mais Alassane Ouattara et son parti l'ont déjà répété plusieurs fois. Le but n'est pas seulement de gagner, c'est de gagner au premier tour. Émilie Yob pour La Voix d'Amérique à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le général Prime Niyongabo, numéro 1 de l'armée, a échappé depuis aujourd'hui à une embuscade contre son convoi à Bujumbura, au cours de laquelle 7 personnes ont été tuées. C'est ce qu'annonce l'AFP citant des sources policières. Un haut gradé de la police précise que 4 militaires de l'escorte du général ont péri, ainsi qu'une policière. 2 assaillants ont été tués et un 3e capturé, selon le général Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police. Les forces de sécurité traquent actuellement les auteurs de l'attaque. Le général Niyongabo est considéré comme un dur du régime burundais, précise l'AFP, et un de ceux qui ont contribué le plus à l'échec de la tentative de coup d'état militaire des 13 et 14 mai au Burundi. RDC, l'homme qui répare les femmes, le film consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege en faveur des milliers de femmes violées dans l'est du pays, définitivement interdit en RDC. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, accuse le réalisateur belge Thierry Michel d'avoir proféré des menaces contre lui. On écoute Lambert Mende au micro de Peggy Wabeno de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le réalisateur Thierry Michel ne trouve pas mieux que de m'adresser à moi, ministre de la République, des menaces d'une violence incroyable avec des évocations historiques inacceptables, comparant mon sort à celui d'un dictateur disparu qui n'a pas été enterré dans notre pays au cas où je n'acceptais pas de laisser diffuser son documentaire en l'état. Je lui ai répondu en lui disant que je me refusais dorénavant d'examiner tous les recours que même les amis ont introduits, qu'un étranger vienne menacer un ministre au lieu d'introduire un recours normalement contre une décision. C'est pourquoi la décision a été gelée pour moi. Elle ne sera plus revue. Ce film reste interdit. On ne le diffusera pas dans les écrans en République démocratique du Congo.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la RDC. Pour une réponse aux accusations de M. Mende, Bagassi Koura a contacté le réalisateur belge Thierry Michel.
Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, parce que jamais je ne me permettrais évidemment d'accuser un ministre en fonction avec des menaces très graves. C'est de la pure fiction. Simplement, c'est vrai que j'ai fait passer un message au ministre à l'occasion de l'article de Digital Congo sur l'anniversaire de la mort en exil, loin de la terre de ses ancêtres, du maréchal Mobutu Sese Seko, où j'ai dit « Mobutu était un grand, un très grand, faisons en sorte que les tragédies de l'histoire ne se répètent pas, faisons tous en sorte, lui, nous, que ce pays ne sombre pas dans une situation comme la fin du règne du maréchal Mobutu, et je crains qu'aujourd'hui le pays soit dans cette impasse, dans cet aveuglement qui a été celui de Mobutu sur les dernières années de son règne, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le régime actuel a cette même logique, le pouvoir à tout prix. »
Thierry Michel, co-réalisateur du film « L'homme qui répare les femmes ». Et puis en Afrique, 4 utilisateurs de Facebook sur 5 se connectent via leur téléphone portable. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya comptent le plus d'utilisateurs en Afrique subsaharienne. Lionel Gaïma.
Selon l'Union internationale des télécommunications, l'Afrique a connu ces dernières années une explosion du taux de pénétration du mobile qui se situe à 63%. Le portable est l'alternative pour téléphoner et se connecter à l'Internet. Les lignes fixes sont souvent vétustes et l'accès à des ordinateurs n'est pas facile. Ainsi, tous les jours, plus de 7,3 millions de Sud-Africains, 7,1 millions de Nigériens et 2,2 millions de Kenyans se connectent à la toile. Facebook, qui a bien compris ce boom, vient d'ouvrir à Johannesburg son premier bureau africain. 60% des utilisateurs africains d'Internet sont actifs sur le réseau social fondé par Mike Zuckerberg. En Afrique subsaharienne, le nombre d'utilisateurs est passé de 100 000 à 120 millions entre septembre 2014 et juin 2015.
Et pour terminer ici aux États-Unis, les Américains commémorent aujourd'hui le 14e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3 000 morts à New York, à Washington et à Shanksville, en Pennsylvanie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.